Alors bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à Link et aux expressions lambda en C-Sharp. Donc nous enregistrons cet épisode en mars 2016. Je suis Christophe Penier, je suis accompagné aussi de l'expert Denis Voituron. Bonjour Denis.
Bonjour, bonjour Christophe. Dans cet épisode, effectivement, nous allons expliquer les détails d'une technologie qui existe déjà depuis pas mal de temps maintenant en .NET, mais qui est souvent mal comprise. Donc on s'était dit qu'on allait faire une petite vidéo là-dessus, et cette technologie, c'est la technologie Link.
Oui, Denis, alors, mais qu'est-ce que cela t'évoque pour toi, le link?
Link, pour moi, quand on en parle, c'est, je dirais, plutôt une extension du langage .NET qui existe maintenant déjà depuis quelques temps, quelques années, et qui permet de filtrer les listes de données pour accéder à des données de type, je sais pas, base de données SQL Server, Entity Framework, etc. C'est
Voilà.
juste?
Oui, alors exactement, c'est l'utilisation commune que l'on a fait. Qu'on en fait tous facilement. Mais on va voir comment Microsoft, il a mis en place des concepts. Pour qui sont basés en fait autour d'une multitude de choses, de fonctionnalités qui sont très intéressantes en fait et intéressantes individuellement et tout ça le centraliser dans Link.
C'est ça. Effectivement, on va peut-être d'abord commencer par un rapide tour, une rapide historique sur l'évolution du langage, du C-Sharp, pour voir, on le voit déjà sur le slide, qu'on est arrivé à Link vers 2007. Mais donc, le .NET est arrivé vers 2002, 2001, 2002,
Ouais, c'est ça.
avec la première version, évidemment, 1.0 et 1.1, avec ce que Microsoft appelle le code managé, donc tout ce qui est code intermédiaire et le langage tel le .NET tel qu'on le connaît. Et puis, on a rapidement vu une évolution dans la version 2, en 2005, qui est intégrée la notion de générique. Donc, les types génériques étaient quand même un bon avancement, je vais dire, au niveau du langage. Et 2 ans plus tard, vers 2007, Microsoft a sorti la version du framework version 3 et 3.5, en intégrant là la notion de link telle qu'on va le voir aujourd'hui. Et puis, un peu plus tard, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, peut-être dans un prochain épisode, on a vu arriver les notions de variables dynamiques et puis, récemment, en 2012, tout ce qui est développement synchrone et asynchrone. Et puis maintenant, en 2016, là, on se retrouve avec évidemment beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités aussi. Et donc, on est arrivé en 2007 à avoir la notion de link qui est pour objectif de retrouver un peu ce qu'on a ici, c'est-à-dire avoir une syntaxe qui est très proche de ce qu'on peut retrouver lorsqu'on fait de l'écriture en SQL vers une base de données. Donc, on va avoir par exemple from C, pour retrouver l'ensemble de mes clients, in une variable ou un tableau de données, where c.city égale une ville, on peut mettre Paris, etc. Select new et on va retrouver, et on va demander de recréer des nouveaux objets. Donc on voit rien que les mots-clés qui sont ici, qui sont symbolisés en rouge, c'est des mots-clés pour ceux qui font des requêtes sur des bases de données qui sont quand même très très souvent connues et très faciles à maîtriser.
Exact, on a ici une syntaxe qui est très proche du langage SQL, mais adaptée en fait aux données enumerable, les listes, les tableaux de tout notre C-Sharp, hein, tout notre code.
Et
Ici, voilà,
ça devient effectivement très pratique.
c'est très pratique. Bon, la chose qu'on remarque directement, c'est l'inversion avec le from et le select du langage que nous connaissons, mais finalement, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus juste dans la façon de lancer cette requête. On parle de données et ensuite on va faire les sélections.
C'est ça.
Donc on peut voir dans ce slide, en fait, tout ce que l'on va pouvoir faire, ce qu'on a l'habitude finalement de l'utiliser dans le link. Link, c'est l'acronyme de Language Integrated Query, d'accord? Donc ça va permettre de générer en fait nos listes d'objets, des données relationnelles et hiérarchiques telles que les XML. Donc ici, on va voir toutes les différentes approches que l'on voit avec cette couche de données. Donc le langage, bon, c'est un composant du framework .NET de Microsoft, hein, comme on le voit, qui ajoute toutes ses capacités, mais qu'on va maintenant regarder. Tout à l'heure, j'avais dit que Microsoft, il avait en fait anticipé, enfin pas anticipé, mais intégré différentes fonctions individuelles. Je te propose qu'on va les voir une à une, et puis certaines, finalement, les noms peuvent paraître compliqués. Comme en préparant cet épisode, j'avais dit effectivement, Denis, le mot inférence, je ne l'ai jamais rencontré, mais pourtant, c'est des choses qu'on va voir qu'on utilise tous régulièrement dans nos développements.
Oui, c'est ça. Effectivement, il y a beaucoup de mots très compliqués qu'on n'utilise pas souvent, qui sont là. On voit le link, c'est un ensemble de concepts. Et les concepts, on va les décrire au fur et à mesure. C'est-à-dire, il y a par exemple le concept d'inférence de type, comme tu viens de le dire. Ça paraît très compliqué comme mot, mais on va voir effectivement que c'est très simple à l'utilisation. On peut faire des initialisateurs d'objets, on peut faire l'utilisation de types anonymes. Alors quand on dit anonyme, si on ne connaît pas le nom, même chose pour des méthodes anonymes. On va utiliser des expressions lambda. Ça, c'est peut-être déjà un peu plus connu maintenant pour les développeurs, mais on va voir ce qui se cache derrière ça. On va voir également tout ce qui est les expressions de requêtage. C'est un peu ce qu'on vient de voir sur le slide précédent avec des from, des in, des where, des select, etc. Et pour mettre tout ça en place, on verra que Microsoft a fait une notion très intéressante qui est la notion de méthode d'extension et qui va permettre effectivement à ce moment-là de, bah, d'étendre, de rajouter des fonctionnalités sur des données ou des types de données déjà prédéfinies, quoi. Mais donc, on va commencer peut-être par le premier.
Oui, bah, écoute... Voilà, le premier, c'est quand même le plus connu quand on va coder, c'est l'inférence de type, c'est par exemple le mot-clé var. Eh bien, oui. En fait, on fait tous un peu ça, hein, var, comme dans l'exemple qu'on a sous nos yeux, var i égale 5, où là, le compilateur va automatiquement lui comprendre que c'est un entier, et donc le déclarer en int. Mm-hmm. Effectivement, dans les autres exemples, on voit en dessus s, var s égale hello. Voilà, automatiquement, il va interpréter ça en tant que string. D, var d égale 1.0, ça va être un double. C'est et ça. Ensuite, cette liste...
On peut peut-être faire ça en exemple, en temps réel.
C'est ce que j'allais te proposer, c'est qu'il existe, avec le compilateur, le nouveau compilateur de Microsoft, qui s'appelle Roslyn. En fait, ici, on a sur le site tryroslyn.azurewebsite.net, c'est quelqu'un qui l'a mis en ligne comme ça, on va pouvoir ensemble tester directement ce qu'on vient d'écrire. Regarde un peu, si je tape un peu ce qu'on disait, je vais marquer... var, par exemple, value égale ce que je marquais 1, 2, 3, point virgule, automatiquement voilà. Sur la droite, boum. Sauf que là, il ne veut pas.
Oui, parce que tu as rien à
répéter. Oui, je ne l'utilise pas, pardon, excuse-moi.
Voilà,
console. Point, majuscule parce que je ne suis pas dans Visual Studio. Whiteline, value, point virgule. Et là, on va voir voilà. Que le compilateur à droite, voilà comment il l'interprète. Ça, c'est la preuve, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Vous
ne
pouvez pas vous tromper.
C'est ça, il a transformé lui-même. Donc, ça veut dire que le var qui est là, le code généré, se trouve vraiment transformé en nombre entier.
Voilà, donc en fait, c'est vrai que c'est une simplicité d'écriture.
Ouais, mais on ne perd pas en performance, puisque derrière, le compilateur, comme il a transformé pour nous, je veux dire, le code final, c'est le même, quoi.
C'est juste une simplicité que l'on nous offre, et on verra plus tard si on veut. Effectivement, le C Sharp, il a évolué toujours dans la simplicité. Après, le compilateur, bon, lui, il peut s'améliorer, mais quelque part, ça ne nous regarde pas trop. Sauf que là, c'est intéressant de voir exactement le résultat. Une petite parenthèse, selon certaines conventions d'entreprise, on en discutait en off là-dessus.
Ouais.
Moi, par exemple, je mange beaucoup du var, parce que je m'en fiche, je vais travailler seul avec mon code, mais toi, qui es en entreprise et qui partage le code parce que vous êtes dans votre équipe de dev, tu me disais que tu faisais quand même attention à l'utilisation de var.
Oui, c'est ça, on évite, sauf qu'on est un peu obligé, on le verra tout à l'heure, quand c'est notamment des types anonymes, par exemple, où là, l'objet n'existe pas. Mais ici, par exemple, dans le cas précis où tu mets var value égale hello, nous, on préfère mettre string value égale hello. C'est un peu plus long à écrire que uniquement le var, mais à la relecture plus tard dans le code, on n'a pas besoin d'aller ou passer la souris sur value pour se dire, tiens, à quoi ça correspond. Là, c'est simple, il n'y a que deux lignes, mais quand on se retrouve avec 30 lignes de code, ça devient parfois un peu plus compliqué d'obtenir directement l'info.
Oui, après, c'est vrai que nous, par convention, convention de nommage voilà. Des variables.
Oui, c'est ça.
Moi, je me souviens qu'avant, et je le fais encore, hein, ça m'arrive, hein, le string, ça va être s-value, par exemple. Enfin, je ne vais pas mettre le mot value, c'est débile, mais c'est un peu comme ça que je fais toujours. Mais var, je l'utilise vraiment à foison, en fait.
Ouais,
je suis très fainéant.
On évite. ça dépend de la relecture qu'on veut faire, mais c'est vrai, quand tu es seul ou en petite équipe, c'est plus simple. Ah, tu relis pas, toi, c'est pour ça.
Jamais. Alors, tiens, on continue, on ferme la parenthèse. Mais c'est vrai que là, c'est quand même quelque chose de très pratique. Et on le verra que Link, quelque part, il est pas loin.
Oui, tout à fait.
On reprend le slide.
Voilà.
L'initialisateur d'objet, en fait, qui va permettre d'assigner les propriétés d'un objet lorsque l'on initialise celui-ci. Donc ça, c'est quand même très, très pratique. Je pense que là, tu l'utilises quand même.
Oui. Ah oui, tout à fait.
Donc là, on voit bien que point A égale new point et puis x égale 0, y égale 0, finalement, on va pouvoir faire. Enfin, il va l'interpréter comme ça. Et bon, là, je ne vais pas vous faire voir, mais c'est assez pratique.
Oui, tout à fait.
Les types anonymes. Donc les types anonymes, Microsoft y a intégré ça où l'objet est non connu lors de l'écriture du code est instancié à l'exécution. C'est juste magique, cette partie-là. C'est des propriétés qui vont être détruites. N'importe quoi, qui sont déduites en fait des noms selon leur valeur. Donc ici, on voit bien que var o égale new, entre accolades name égale Jenny, virgule age égale 31, et bien Microsoft, de manière dynamique, en fait, il va créer la classe pour nous.
C'est ça, c'est le compilateur. Hein. C'est le compilateur qui le crée, donc il va créer une classe. Il ne s'appellera pas XXX, mais elle va s'appeler anonyme, underscore, en fait, voilà, machin, avec un numéro.
On le voit aussi dans Trails Roseline, ça, je l'avais testé. Bon, après, il met un peu plus, c'est un peu plus complexe que le XXX.
Ouais,
mais ça marche tout à fait pareil. Et puis, pareil, encore une simplicité d'écriture qui va être sympathique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que tu pourrais nous expliquer?
Alors, je peux parler ici aussi de ce qu'on appelle des méthodes anonymes. En fait, les méthodes anonymes, c'est un peu le même principe que ce qu'on vient de voir avec les types anonymes, mais adaptés aux méthodes. En fait, ça permet de déclarer une méthode en ligne sans devoir la nommer. En réalité, quand on utilise un projet, je vais dire, et qu'on veut créer, par exemple, j'ai mis l'exemple ici d'un événement clic, il y a une méthode souvent qu'on appelle mon bouton underscore clic par convention, ce genre de choses. Donc, je vais peut-être faire ça dans Visual Studio. Je vais ouvrir une solution la plus simple possible, c'est-à-dire une solution, par exemple, console. Je ne change pas le nom, je l'appelle console 1. Et je vais prendre un autre exemple parce que dans une console, je n'ai pas nécessairement un bouton à devoir placer, un élément graphique, mais je peux par exemple utiliser un timer. Donc si je veux créer par exemple, puisque je n'ai pas ici des boutons dans une interface de type console, mais je vais créer un timer, je vais l'appeler horloge, égale new timer. Si je prends mon horloge et que je vais voir les événements, j'ai par exemple un événement elapse qui s'enclenche à chaque fois que le timer doit toutes les secondes, toutes les millisecondes par exemple. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus égal, j'appuie sur tab, il va me générer automatiquement un nom de méthode qui a été déclaré ici en dessous, qui s'appelle par exemple horloge elapse. Ça, c'est le fonctionnement habituel qu'on va utiliser lorsqu'on veut créer un événement par exemple avec une méthode. Et la méthode, dans ce cas-ci, elle est nommée. Elle n'est évidemment pas anonyme. Mais j'ai le même principe, j'ai la possibilité de faire la même chose, mais en utilisant maintenant le mot-clé « delegate ». Donc le « delegate », c'est le pointeur vers la méthode anonyme. Et je dois utiliser la même signature, puisque je me retrouve dans les mêmes conditions. Et si j'utilise ce « delegate », je vais pouvoir, en dessous, venir mettre ici le code, mon code, le code qui va être exécuté à la place de la méthode que j'aurais déclarée juste ici en dessous. Donc c'est la même chose, ça donnera le même résultat, mais de manière anonyme, puisqu'il n'y a pas de nom associé à cette méthode. Donc ça, c'est le
principe. Intéressant, parfois ça évite de faire... C'est intéressant, mais c'est pareil à niveau pour la lecture du code.
Ouais.
Je suis moins chaud sur les delegates, parce que... Mais ça dépend. Ça dépend vraiment quand j'ai juste une ligne à mettre, quand il n'y a pas grand-chose à mettre dans l'event.
C'est ça. Mais de cette manière-là, avec le mot-clé delegate, peut-être pas, mais on va le voir après, puisque le but, c'est de l'intégrer dans Link, et que là, ça va nous permettre de simplifier énormément de choses aussi. Ouais. Et alors, juste pour enchaîner sur les délégués, depuis déjà quelques temps maintenant, depuis le framework 2, Microsoft a rajouté une notion qui est très liée aux délégués. On a vu qu'il y a la notion de générique, qui sont des types prédéfinis lors de la compilation du code, mais Microsoft a rajouté cette notion de délégué avec ces génériques, et c'est ce qu'on appelle un prédicat. Donc un prédicat, c'est un délégué générique qui va retourner toujours un booléen. Et ça va souvent être utilisé dans des méthodes de recherche, par exemple. On veut, par exemple, rechercher tous les employés et on va mettre la condition entre parenthèses qu'on va vouloir utiliser. Donc par exemple, si je reviens sur mon petit exemple dans mon Visual Studio, je vais peut-être déjà enlever ce code ici sur les délégués. Et ce que je vais faire ici, c'est, imaginons par exemple, créer un objet personne. Et je vais utiliser cet objet personne. Donc, je vais faire une classe personne. On va la faire très rapidement. Cette classe personne, elle va posséder deux propriétés. Un string qui va être mon nom de personne. Et on va créer une deuxième propriété, un booléen, qui va savoir est-ce que cette personne est mariée ou pas. Et ce que je vais vouloir faire par rapport à ça, c'est... créer une méthode et l'appeler par l'intermédiaire de mon prédicat. Donc je vais par exemple créer une liste de personnes. Donc après avoir créé une classe personne, je vais l'utiliser pour faire une liste de personnes. Liste de personnes égale ma nouvelle liste de personnes. Et dans cette liste, je vais y ajouter, on va mettre deux personnes. Une première personne qui est Christophe Peugnier, qui est marié, il me manque, oui pardon, ouais, ça ne va pas, le nom est, voilà, et est marié égale, t'es marié? On va mettre trou, voilà, alors moi je vais dire que je ne suis pas marié, comme ça on aura deux personnes différentes. Non, c'est pas grave, ma femme ne va pas être contente, mais c'est pas grave, elle ne va pas regarder, voilà. Je vais mettre mon nom, moi. Hop. Et je vais dire que est marié égale faux. Voilà. Et donc, une fois que j'ai cette liste de personnes, je vais pouvoir créer mon prédicat vers une méthode, par exemple, que je vais définir qui va me renvoyer est-ce que je suis marié ou pas. Donc, je vais pouvoir ici créer
le mot var. Parce que tu sais plus ce que c'est.
Je pourrais le savoir avec le prédicat qui est derrière. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Et donc, je vais lui dire, on va créer un prédicat sur une personne avec une méthode qui est mariée, qui va me renvoyer un booléen. Cette méthode, je vais évidemment la définir juste ici. Static bool. Je vais créer qui est marié. Et cette personne qui est mariée, que je passe ici en paramètre, je peux facilement le savoir en faisant un return de ma personne.est marié. Ça me va donner mon paramètre tout simple. Et mon prédicat qui est là, ben je peux le renvoyer en mettant le qui est marié.
C'est juste magique.
Pour savoir si cette personne-là est mariée ou pas. Et donc, à partir de là, si je veux savoir avec un var qui, je peux lui demander, donc la personne à retrouver, je peux lui dire, donne-moi la personne, tu me le recherches sur base de ma condition, de mon prédicat que je viens de créer ici. Et si je l'affiche, on va peut-être pas aller jusqu'à l'affichage, mais je peux afficher le qui.nom, la personne. Je peux faire un console.read qui pour ne pas que mon écran disparaisse tout de suite. Et si je fais ça, ben, il va me retrouver la première personne dans ma liste, c'est-à-dire dans ce cas-ci, c'est toi, qui est marié. Et on la retrouve ici. Ok ? Et donc, ben, sur base de ces différents concepts, Microsoft a essayé de les intégrer, je vais dire, de les regrouper. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Voilà. Il a essayé de les intégrer en reprenant cette notion de délégué, exactement comme on vient de le voir ici. Sauf que, ben, on va intégrer la notion de méthode anonyme. On vient de le voir, le qui est marié qui est là, ben rien ne m'empêche de dire au niveau de mon prédicat ici, de venir le remplacer et de lui dire ben je vais mettre ça en tant que délégué, donc c'est-à-dire une méthode anonyme, comme on l'a vu juste avant, délégué d'une personne, P, et cette personne P, je vais le mettre mes accolades ici dans mes parenthèses, je vais lui dire ben, tu me retournes ma personne.est marié. Point virgule. Et donc ça veut dire que ben, du coup je n'ai plus besoin de mon prédicat et évidemment je n'ai plus besoin de ma méthode qui est associée à mon prédicat pour pouvoir le faire. Je mets tout ça à l'intérieur d'une méthode anonyme sur base de mon délégué. Et on a encore la possibilité même d'aller encore plus loin puisqu'on a vu que les délégués on avait la possibilité de les remplacer et donc on va pouvoir les remplacer par quelque chose qui est ce qu'on appelle une expression lambda. Et là, l'expression lambda, c'est tout simple en termes d'écriture.
Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup, on connaît en fait directement cette expression. Voilà. Et là, on vient de voir un petit peu l'évolution et comment on y est arrivé.
C'est ça, c'est juste remplacer le delegate dans mon code qui est là, le delegate qui est ici, je le retire et je viens mettre ici à la place, égal supérieur, et j'ai même plus besoin de faire le return puisque je sais que ça va renvoyer un élément booléen, j'ai juste besoin de faire le est marié qui est ici. C'est tout. Et ça, c'est l'écriture que, a priori,
que tout le monde connaît. Parce que juste avant, il y en a qui se sont dit « Oh là là, on va où là ?» Et en fait, c'est vraiment de l'évolution du langage.
Oui, c'est ça.
Et ce truc-là, voilà, c'est tout le monde utilise. Enfin,
oui, tout à fait.
Je ne sais pas comment ils peuvent faire ça.
Alors, une dernière chose qu'on a comme possibilité, c'est de dire « On va travailler avec les types anonymes. » Donc, c'était une notion qu'on avait vue avec le var tout à l'heure. Bah, ici, pour la simplification ultime, si je peux dire, personne qui est là, il a moyen de le définir et de le déduire sur base de la liste qui se trouve devant. Puisqu'on va faire une recherche sur une liste de personnes, bah, il dit bah, « Ok, j'ai pas besoin de savoir que c'est personne qui se trouve ici. » Et ça, c'est vraiment l'écriture finale, en général, qu'on va retrouver lorsqu'on veut faire des expressions lambda. Évidemment, le résultat est exactement le même. On obtient la même solution. Et le code résultat, c'est, si on va voir le code compilé, c'est toute la symbolique qu'on vient de voir avec la transformation des types anonymes, des méthodes anonymes, etc.
Et l'écriture est beaucoup plus simple.
Et l'écriture, dans ce cadre aussi, est effectivement beaucoup, beaucoup plus simple. Ouais. Alors, une toute dernière chose, et puis je te repasse la parole sur l'utilisation complète dans Link. Il reste quand même encore juste un petit problème, c'est que Microsoft voulait intégrer tout ça sur des objets et des types de données existantes. C'est-à-dire qu'ici, c'est un peu facile, c'est mon objet personne, c'est moi qui l'ai créé. Donc j'ai un peu la possibilité de faire ce que je veux. Et pour pouvoir rajouter ça sur des méthodes un peu quelconques, je vais dire, un peu existantes ou des objets existants, sans devoir remodifier le code, il a créé ce qu'on appelle des méthodes d'extension. Et donc une méthode d'extension, ça se symbolise tout simplement à l'écriture par le mot-clé TIS qui se trouve dans la définition du premier paramètre de la méthode. Et Microsoft va générer derrière ça une méthode statique dont l'appel de cette méthode va envoyer l'objet sur lequel il se compose. Donc exactement comme on l'a ici. Donc si par exemple je veux créer sur mon objet de personne une méthode qui est « j'ai plus de 18 ans », qui est tout simplement vérifier l'âge supérieur à 18 par exemple, mais je vais pouvoir écrire une méthode statique qui va renvoyer un booléen dans mon cas, qui s'appellera plus de 18 ans, dont le premier argument est la personne, mais je mets le mot-clé TIS. Et donc du coup, à l'utilisation, si je fais P, mon objet personne, P point, je vais retrouver dans la liste, dans l'IntelliSense et dans la liste des méthodes disponibles, cette nouvelle méthode d'extension qui existe. Et ça, c'est effectivement à ce moment-là très très intéressant parce que ça me permet de rajouter des données même sur des éléments, je vais dire, qui sont déjà prédéfinis. L'exemple typique pour moi, c'est par exemple l'objet string. Rajouter et modifier le fonctionnement d'un objet d'un type string, bah évidemment c'est pas très faisable, alors que si je prends par exemple ici le code, je l'ai fait copier-coller pour avoir le... je vais pas le mettre ici, je vais le mettre en dessous, voilà, j'ai fait copier-coller pour aller plus vite, j'ai créé une classe statique qui s'appelle mes extensions avec ma méthode exactement comme je viens de le dire, nombre de voyelles qui me demande en paramètre une valeur de type chaîne de caractères qui s'appellera nombre de voyelles et qui va calculer ici le nombre de A, E, I, O, U présents à l'intérieur de ma chaîne de caractères. Et donc si je fais ça, dans l'IntelliSense, j'ai juste besoin de faire mon exemple, qui est une chaîne de caractères, point, et je vais avoir une nouvelle méthode en quelque sorte, nombre de voyelles, qui va pouvoir être appelée, dans lequel je vais pouvoir récupérer le nombre de voyelles correspondantes à ça. Et ça, le fait de rajouter des méthodes d'extension, donc de rajouter des méthodes à des éléments, à des objets déjà existants, ça va permettre de reprendre tout le framework et de venir mettre des fonctionnalités de « je recherche, je veux trouver le premier, je veux trouver le dernier, je veux trouver combien il y en a, etc. »
Voilà, par exemple, les choses que j'utilise beaucoup, moi, c'est pour étendre toutes mes fonctionnalités de date.
Oui, voilà.
Par exemple, me donner, en fait...
Ce qu'on fait aussi.
Voilà, les calculs du numéro de semaine par rapport à une date. Donc, en fait, Tu te crées toute une extension, tout un fichier classe que après j'utilise partout parce que je veux personnaliser certaines fonctionnalités ou les étendre.
Oui.
Mais c'est surtout pour étendre.
C'est ça. Et donc, voilà, c'est une syntaxe, du coup, qui est très, très facile, très simple à comprendre et qui permet après d'avoir, juste par une simple transformation, on va dire, de transformer la syntaxe qu'on voit ici au-dessus d'un from C in customer, on va remettre, Microsoft va transformer ça en customer, tout simplement, premier mot. Et puis on aura le where qui va être transformé en point where. Donc c'est jamais que rajouter des mots-clés qui existent dans l'espace de nom system.link et qui sont des méthodes d'extension sur des objets de type IEnumerable, donc des listes. Et après, on a juste besoin de mettre les expressions lambda qui se trouvent derrière. L'expression lambda va se trouver ici. Et finalement, on aura le select qui va être remis avec exactement la même chose. Donc c'est le link au sens from where select n'est jamais qu'une transformation d'écriture sur base du link au sens mon objet.where.select. C'est juste une transformation à ce niveau-là qui vont être transformés eux-mêmes en méthode d'extension classique, en méthode en type anonyme, en variable anonyme, etc. Donc voilà. À propos, Christophe, on en a parlé tout à l'heure, mais pourquoi le select se trouve à la fin et pas au début, comme on aurait pu avoir un select quelque chose, from, comme on l'a en SQL ?
C'est tout simplement pour Visual Studio, en fait, ça va nous permettre d'avoir une amélioration de l'IntelliSense. En fait, en sélectionnant d'abord notre personne, notre objet personne, on va pouvoir ensuite, du coup, passer une commande select, et parce que la personne est connue dès le départ.
Oui, c'est ça.
Sinon, on était incapable. Parce que, effectivement, en regardant Lynx, le langage SQL, finalement, n'est pas logique. Mais c'est l'SQL, enfin l'IntelliSense, qui a voulu ça, finalement.
Oui, c'est ça, c'est effectivement. Et c'est vrai que c'est le genre de problème quand on écrit des requêtes SQL, quand on commence à écrire la commande, on n'a pas la liste des champs ou des colonnes sur lesquelles on va travailler, puisqu'on ne sait pas encore sur quelle table on va travailler.
C'est quelque chose qui ne m'avait pas choqué, moi, au départ, quand j'ai fait de l'SQL, parce que, on ne pensait pas à ce concept Lynx. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus logique, le Lynx.
C'est vrai que c'est plus logique à ce niveau-là, tout à fait.
Ouais, et donc, en fait, Microsoft, il a ajouté, en fait, dans l'espace de nom, le system.link, qui n'était pas au départ. Maintenant, on l'a automatiquement. Parce que rappelle-toi, au départ des premières versions, il fallait le mettre toi-même. Sinon, tu ne bénéficiais pas de tous les avancements de
Oui.
Link.
C'est une bonne remarque, effectivement. Et c'est une chose importante, c'est souvent les développeurs, je veux dire débutants, ben, essayent de faire du Link et puis on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas le système.link qui se trouve au-dessus et forcément on n'a pas toutes les méthodes correspondantes. Donc ça, c'est souvent une erreur au
Oui, au
départ,
départ,
c'est
non, non,
bien
mais
vérifier qu'on a
maintenant,
système.link.
il y est par défaut, hein, Denis.
Maintenant, il y est par
Ouais,
défaut, oui, tout à
ouais,
fait.
ouais. On l'avait vu, hein, je crois. Je crois que j'ai démarré il n'y a pas longtemps sur le 2015. Peut-être y est avant, en
Oui,
même
si on
temps.
crée une classe, il
Mais
y
je
est.
me
Ouais.
sais
Bah,
qu'au
en fait.
départ, effectivement, on cherchait tous. Et ouais, le truc tout con, et tu passais un quart d'heure. Putain, mais j'ai pas les fonctions. C'était
Bah,
simplement qu'il faut vérifier dans les usings qu'on ait ça.
c'est ça, bah, on sait plus s'en passer hein, pour le moment quand on voit ça.
Bah oui, alors ouais, c'est ça. Et pour moi, c'était initial. Enfin, c'était comme ça dans le langage, je t'avouerai. Moi, mes préférés, c'est les where, c'est les group by, les select, enfin, tout ce qui découle en fait finalement du requêtage. Mais en fait, après, ce qui est logique et ce qui est hyper intéressant, ça va être les first or default, le any, qui est quand même et le where et le select. Tout cela, bon, après, c'est ceux que j'utilise le plus.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais voilà, c'est ça. Il y en a toujours certains qui reviennent en priorité
Les
en
plus
général.
complexes, après, ça va être les unions. À mon goût, hein, ça, c'est pour moi, les joints. Mais ça
Ouais, les
vient de
jointures, les
mon,
joints,
de ma compétence en SQL à ces niveaux-là où je dois un peu creuser un peu plus mes ménages.
ouais, non, c'est vrai. Bah, les joints, personnellement, j'en fais pas beaucoup. Si je peux l'éviter,
Ah ouais?
j'évite. Mais
Tiens
ouais, c'est
d'ailleurs, une
pas.
astuce pour bien écrire son code, je ne sais pas si les gens connaissent, c'est un utilitaire qu'on trouve sur Internet qui s'appelle linkpad.net. Alors le site web, où on peut le retrouver, attends, le
Il
site
est
web about
ici.
linkpad, tu l'as? Parfait.
Ouais, linkpad.net.
Voilà, donc là en fait c'est super intéressant. Tiens, je te parlais des links parce qu'il existe des exemples sur Internet, des trucs de fou. Alors regarde, je vais te faire un copier-coller. Hop, 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 hop. Copier, j'arrive sur ton écran. Alors c'est ce... Tu l'as pas installé toi?
Linkpad, si, il est là.
D'accord.
Il est ici en bas. Si tu veux le démarrer, on appuie dessus.
Ah bon, on va le redémarrer. Et donc voilà, cet utilitaire, il va nous permettre de tester le code. Directement, donc là, ici sur la gauche, on trouve sur internet des samples qui vont vous permettre d'apprendre et puis de faire des tests. Là, j'en ai copié-collé un parce que je travaille sur ton écran. Par
Ah oui.
exemple, regarde tout ce qui est join, pouf, merde, hein, il me fait le même coup chez moi, bon, donc je fais pas l'exemple.
Ah, il faut choisir au-dessus, je pense. Au lieu de C Sharp Expression, tu dois prendre C Sharp Programme parce
Programme,
qu'il y a un main. Voilà.
excuse-moi. Voilà, et là, en fait, regarde, pouf, automatiquement, il t'exécute tes requêtes. Et donc ça, c'est vraiment un outil que je pense que tous les devs devraient l'avoir.
Ouais,
Beaucoup
c'est
l'ont.
vrai. C'est vrai, c'est pas mal.
Et il est super
Et on peut
bien.
mettre du code C Sharp et du coup faire les requêtes link. Et je pense qu'il y a l'IntelliSense, il y a tout. Hein. Il fait la vérification des erreurs, il fait l'IntelliSense, il fait tout.
Ouais, donc après, il y a
Et c'est
des
très
outils
pratique.
très avancés. Le debugging, il est payant, ça va être bon. Mais ça va pas être grand-chose. Hein, on peut acheter après le programme si vraiment on a besoin de tout ça. Mais ça va vraiment nous permettre d'aller rapidement, parfois d'éviter la compilation dans le code. Parce que finalement, ici, ça va très très vite. Et ça, je le conseille vraiment à tout le monde. J'ai un lien que je peux peut-être retrouver qui va nous donner plein d'exemples. Si je le retrouve. Bon, on le mettra dans les notes de la vidéo parce que je ne l'ai pas sous la main. C'est une cinquantaine de petits exercices. Bon, je peux appeler ça des exercices, mais du code source pour
Il y en a ici à
justement.
gauche aussi, hein. Si tu prends Sample qui se trouve à gauche, là sur
Bah,
l'onglet, ici,
c'est
hop,
là-dedans, il y
voilà.
en a un. Ouais,
Il y
c'est
en
pas ceux-là,
a
j'en ai
toute une
d'autres.
série, quoi.
J'en ai d'autres
Oui, non,
et
tout à fait, oui.
ils sont très très riches. En fait, bon, après, c'est un point zip. Hein. Toi-même, tu peux te donner plein d'exemples et puis tu les mets en zip et puis tu le partages.
Mais c'est vrai que Linkpad à ce niveau-là, bah, il est reconnu aussi hein, pour faire tous les tests à la fois de débugage et de requêtes SQL à devoir générer. On peut se connecter, on voit, il y a la add connection, on peut se connecter
Ouais,
sur une DB SQL, on peut
c'est
se connecter sur une
super
source de données
puissant. Hein.
externe,
Alors je ne sais pas
c'est
si on peut,
très
même avec la
puissant.
version libre, la freeware, on peut se connecter à la DB?
Ouais, je pense,
Ouais, je
on
l'utilise
a add
pas.
connection et on a ici
On peut, ouais, c'est
différents
génial, c'est
drivers
vraiment
qui
génial.
existent donc,
C'est vraiment
qui
un
sont
outil
transformés
indispensable.
après
Enfin,
en
je
outils
trouve,
framework.
maintenant. Ouais.
Non, non, c'est clair, c'est très très bien.
Bon, on constate qu'on a vu quand même plein de concepts derrière Link. Donc les expressions where, les formes, les selects, les mots-clés var qui sont indispensables. Les méthodes d'extension que tu as expliquées tout à l'heure sur les collections de données, les expressions lambda qui vont nous permettre après de simplifier la vie. Rappelez-vous en fait d'où vient le égal plus grand que, les types anonymes, les initialisateurs pour créer des objets à la volée. Et donc, personnellement, en fait, je dirais, on ne peut pas s'en passer, ou on ne peut plus s'en passer dès qu'on le découvre. Moi, j'ai appris le langage au départ, je pensais que le link était inclus dans le C# pour te dire. Ça me paraissait logique, c'était comme ça que le langage était fait, mais non. C'est un outil, enfin un outil, un concept apporté en plus.
Et moi personnellement, même dans d'autres langages que le .NET par exemple, je pense à du Java, ça m'arrive aussi régulièrement de rajouter des bibliothèques qui existent aussi, qui simulent en quelque sorte ça. Donc on se retrouve avec les mêmes types de commandes, des from, des where, des select, même en JavaScript si on a envie de les utiliser.
Ouais, c'est vraiment le
C'est
truc
très
génial.
puissant.
Et ça, tu me l'avais appris parce que je ne savais pas que dans le Java, on avait ça aussi. Maintenant, moi, je ne développe pas dans ce langage-là. Je peux pas te
Non,
dire.
moi c'est plutôt dans JavaScript ce que je voulais
Oui,
dire. C'est souvent
JavaScript, mais je ne
dans,
le fais
ouais,
pas. Bon, et je
avec
pense que
TypeScript.
dans pas mal de la framework, il doit exister maintenant dans pas mal de langages. Mais après,
Ouais,
ça
tout à
serait une autre
fait.
histoire.
C'est clair.
Bah, écoutez, s'il y a des commentaires, tout ça, bah, vous pouvez les mettre sous cette vidéo. Et puis,
Ouais.
bah, Denis, au moins, on sera un
N'hésitez
plaisir
pas,
d'y
ouais, c'est
répondre.
ça. Et laissez-nous un message. Partagez la vidéo, en tout cas. Ça nous fait, en tout cas, très plaisir
On
de
peut
nous
nous
soutenir,
retrouver
de faire des
aussi sur le
commentaires.
podcast devapps.be.
Oui, on avait fait d'ailleurs plusieurs émissions avec différents acteurs, différentes personnalités, je vais dire, du monde .NET et du monde Microsoft qui sont venus un peu présenter leur métier, leurs travaux. Donc c'est toujours
C'était
intéressant de suivre
super
à la fois des
intéressant.
technos et ouais.
Ouais. Il y a vraiment
C'est clair.
des super invités qu'on avait. Mais en fait, si on n'hésitez pas à les écouter ou les réécouter. En tout cas, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci, Denis.
Merci à
Puis à
toi
bientôt.
et à bientôt en tout cas pour un nouvel épisode. Merci bien. Au
Ciao.
revoir.